Chapitre 10. Je viens d'entendre dire, dans une papeterie où j'ai été acheter un cahier, qu'on a aperçu les Prussiens à Ablon. Je me dépêche de rentrer pour porter cette nouvelle à la maison. Ce fera plaisir à mon père. Il soutenait hier à M. Le Gros que les Allemands seraient à Versailles dans 8 jours. Et M. Le Gros prétendait qu'il ne mettrait probablement pas le pied dans le département. Depuis quelques jours, du reste, on fait chez nous du matin au soir de véritables cours de stratégie. M. Baudrin, mon père, le marchand de tabac, expose tour à tour leur système. Les dames s'en mêlent aussi. On crie sans cesse, on s'emporte souvent. On se dispute quelquefois. Toutes les 5 minutes, mon père s'écrie en haussant les épaules. « Laissez-moi donc tranquille !» Et M. Baudrin lui répond « Permettez, permettez, que chacun s'explique librement, et l'on finira par s'entendre. » Mais mon père ne veut rien permettre, ni M. Le Gros, ni ses dames, et l'on ne s'entend jamais. Si, on s'entend sur un point, sur un seul. Lorsqu'il est question des revers éprouvés par nos généraux, des batailles perdues, des désastres qui se multiplient, tout le monde s'écrie à la fois. C'est infâme! Et l'on convient, avec une unanimité touchante, que si nous sommes vaincus, c'est que nous avons été trahis, vendus, livrés. Infâme Leboeuf! Infâme Palikao! Infâme de Failly! Infâme Frossard! Infâme l'empereur! Badingue! Invasion 3! C'est infâme! Depuis une dizaine de jours, je n'ai que ce mot-là dans l'oreille, et je l'entends encore, le diable m'emporte, en entrant dans le salon. Il a un drôle d'aspect, le salon. Les chaises et les fauteuils occupent des places invraisemblables. Le tapis de la table est à demi arraché et traîne à terre. Monsieur Le Gros a les pieds dessus et le trépigne avec fureur. Monsieur Baudrin lève les bras au plafond comme s'il cherchait la barre d'un trapèze. Ma sœur, tout ébouriffée, se dissimule derrière un fauteuil où le père Merlin, très tranquille, est assis les jambes croisées. « Oui, c'est infâme, infâme, c'est moi qui vous le dis !» Et mon père, dans une attitude de faiseur de poids, les jambes écartées, le bras droit tendu, semble menacer M. Pion, appuyé au mur, les mains dans ses poches. « C'est à M. Pion qu'on en veut. Pourquoi ?» Je ne l'ai pas vu à la maison depuis quelque temps. Qu'a-t-il fait? Pourquoi est-il pâle comme ça? Si pâle qu'on dirait qu'il a la colique. Je me glisse derrière le canapé. Réellement, monsieur Pion, vous me scandalisez, s'écrie monsieur Baudrin. Osez prétendre que Badinguet... Voulez-vous dire l'empereur? Nom de nom, rugit monsieur Pion. Badinguet, Badinguet, hurle le marchand de tabac. « Osez prétendre que l'ex-empereur, continue le professeur en hochant la tête, ne s'est rendu à Sedan que pour sauver son armée. Oui, oui, je le soutiens, et il a bien fait, vous entendez, il a bien fait. C'est infâme, crie mon père, c'est votre sale république qui est infâme. Rien n'était perdu si le gouvernement impérial était resté debout. Avec votre république, vous allez voir, quelque chose de propre, votre Marianne. » Espèce de Prussien, badinguesard, mauvais patriote. Aussi bon goût, nom d'un chien. Et puis d'abord, je m'en fiche, moi. Plus d'empereur, je donne pas 4 sous de la France. Je m'en fiche, vive l'empereur. Ah bah, badinguet, hurle monsieur Le Gros. Criez donc vive l'empereur, comme le mois dernier. Ça vous va mieux sans culotte manquée. Des huées couvrent la voix de monsieur Pion. C'est scandaleux, c'est infâme, à bas badinguet, à bas la Marianne. On devrait vous fusiller. Monsieur Pion s'élance sur monsieur Le Gros, qui a prononcé la dernière phrase. Vous osez dire, me menacer, vous, parce que vous avez tourné casaque. Monsieur Baudrin cherche à s'interposer. Permettez, messieurs, permettez. Mais mon père met la main sur l'épaule de monsieur Pion. « Monsieur, nous sommes ici des patriotes. Monsieur, vous devez comprendre que votre présence, désormais... » Monsieur Pion se retourne tout d'une pièce. Oui, je m'en vais, c'est ce que vous voulez, hein. Et je ne suis pas prêt de remettre les pieds chez vous. C'est égal, barbier. Vous n'avez pas été long à changer votre fusil d'épaule. Moi, je joue franc jeu, vous entendez? Je ne tourne pas casaque, moi. Et il sort en faisant claquer la porte. Il n'y avait qu'à l'expédier, dit mon père en se frottant les mains. Avez-vous jamais vu un animal pareil? Et il croyait nous faire peur. Il n'a jamais coupé 5 bras à 2 Suisses, peut-être. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Merlin? Je dis que c'est une belle chose qu'une conviction solide. Certainement, appuie monsieur Legros. On est républicain ou on ne l'est pas. Le père Merlin sourit. Mon père, qui ne m'a pas vu entrer, m'aperçoit. Tu étais là? Qu'est-ce que tu fais?
Papa, j'ai appris tout à l'heure qu'on a aperçu les Prussiens à Ablon. Je venais te le dire.
Ablon, s'écrie monsieur Baudrin. Diable de diable. Et il sort une carte du département qu'il porte toujours sur lui. Tenez là. Toutes les têtes se penchent. En face Villeneuve-Saint-Georges, dit monsieur Legros. Mais ils ont la Seine à traverser. On va leur disputer le passage, j'espère. Ah, si tout le monde fait son devoir. Monsieur Baudrin relève la tête, il a l'air inspiré. Faire son devoir, oui, tout est là, il faut élever nos cœurs. Élevons nos cœurs, sursum corda. Sursum corda, répètent mon père et le marchand de tabac, qui ne savent pas le latin. Sursum corda, ô les cœurs. Mais, continue le professeur en frappant sur la table, que ce ne soit pas là un vain mot. Prenons dès maintenant l'engagement de défendre, par tous les moyens en notre pouvoir, le sol sacré de la patrie. Faisons serment, ça va devenir intéressant. Malheureusement, mon père s'avise de ma présence. Jean, ta place n'est pas ici, remonte dans ta chambre, tes devoirs t'attendent. Le soir, j'ai demandé à ma sœur les détails sur ce qui s'était passé après mon départ. Elle a refusé de m'en donner. Mais dis-moi au moins, Louise, si on a prêté serment.
Oui.
Monsieur Merlin aussi?
Non.
Il est parti aussitôt après toi. Il avait ses fleurs à arroser.
Ah, et l'on a fait serment de...
Ça ne regarde pas les enfants, tu es encore trop jeune. Tout ce que je puis te dire, c'est qu'il faut élever ton cœur. Sursum corda. J'élève mon cœur. Je grimpe tous les matins sur un arbre de la butte de Picardie pour voir si je n'aperçois pas les Prussiens. Quand j'ai constaté l'absence de tout casque à pointe à l'horizon, je vais passer le reste de ma matinée dans le parc. Ce n'est pas bien drôle, le parc, avec ses allées montantes, ses balustrades, ses escaliers, ses vases, ses boulingrins, ses terrasses. Il me fait l'effet d'une grande pièce montée. Mais j'ai l'espoir d'y rencontrer un camarade. Quand j'en déniche un, ça va encore. Quand je n'en trouve pas, par exemple, c'est un désastre. J'en suis réduit à examiner le parc dans ses moindres détails. C'est triste à mon âge, allez. Ce fameux le nôtre était décidément au-dessous de tout comme jardinier. C'était le modèle des fils, dit monsieur Baudrin, qui m'a fait apprendre par cœur, dans les morceaux choisis, une pièce où il est question de la piété filiale du planteur de buis. C'était le modèle des fils. Aussi, ce fut un grand homme. Il fut honoré de l'amitié du roi Soleil. Voyez-vous, mon ami, pour arriver à quelque chose de bien, il faut avoir à un haut degré le sentiment de la famille. Monsieur Baudrin doit me tromper. Ah, les quinconces, maussades, les urnes lugubres, les statues galeuses, les bronzes à écrouelles, les hideux tapis verts sur lesquels sanglotent les vieux arbres, les murs des terrasses tapissés d'un buis sale qui ressemble à du velours pisseux. Il y en a partout du buis. On l'a mis à toutes les sauces, coupé à toutes les coupes. On l'a taillé en carré, en triangle, en pain de sucre, en toupie, en pyramide. C'est triste à faire pleurer. S'il y avait des fleurs, au moins, ce serait un peu plus gai.
On pourrait se croire dans un cimetière, mais on n'a point planté de fleurs, pas de frivolité. On a préféré l'utile à l'agréable. On a mis de petits treillages au pied des plantations du modèle des fils et des jardiniers. Les chiens levaient la patte dessus. Il y a, du côté de l'allée où les marmousets prennent leur bain de pied, quelque chose d'ignoble. C'est un parterre encadré par des rampes de marbre, lépreuses, moussues, pareilles à des croûtes de vieux fromage. Dans ce parterre, entre les bordures de buis, toujours, végètent de misérables arbustes gringalets, tout ronds, tondus à la malcontent, comme des caboches de soldats, et des ifs pitoyables, taillés en pointe, pointus à y empaler des mécréants. Je ne comprends pas qu'on puisse arranger de cette façon des végétaux qui ne vous ont rien fait. Ils ont l'air d'être au supplice, ces arbres. J'en ai vu qui leur ressemblaient dans une boîte champêtre en sapin qu'on m'avait donnée dans le temps pour mes étrennes. Ils avaient un feuillage en copeaux et au pied, en guise de racine, une petite rondelle de bois. Ils n'étaient pas aussi vilains que ceux-là et ils sentaient bon la colle et la peinture, au moins. Je prends le pas de course lorsque je traverse ce parterre, et je ne me retourne pas même lorsque je suis arrivé au bout. Je sais que si je me retournais, j'aurais devant moi le grand squelette du château avec ses hautes fenêtres à petits carreaux, qui font l'effet d'énormes pièces de canevas dépiautées, où manque la laine de la tapisserie, la vie des couleurs. Je vais tristement le long des charmilles qui montrent la trame des treillages. À travers les trous, j'aperçois de l'herbe qu'on n'a pas passée à la tondeuse, des mousses à l'alignement incorrect, des pâquerettes, des violettes, des coucous, des boutons d'or, qui poussent là tranquillement, sans règle, à la bonne franquette, comme si ce n'était pas défendu. Ça doit être défendu, pourtant. Ah, si le nôtre vivait encore! L'autre jour, en rentrant pour le dîner, j'ai rencontré Madame Pion. Elle m'a demandé si mon père était toujours aussi toqué. Je lui ai répondu, pour ne pas me compromettre, que je n'en savais rien. Là-dessus, nous avons causé, et comme elle revenait du marché, elle m'a offert, avant de me quitter, une belle grappe de raisin. Mais, madame, je vous remercie. Prends donc, Bêta, vas-tu faire des manières, toi aussi ? Mais c'est que je n'ai pas encore dîné. Eh bien, tu mangeras ton raisin au dessert. Je rentre à la maison, ma grappe à la main. « Sapristi, me dit Louise, tu as là un beau raisin. Où as-tu pris ça ? » ?»«
On me l'a donné. » »«
Qui ça ?»«
Madame Pion. » »«
Tu dis ?»«
Madame Pion. » »«
Ah !» Louise se précipite dans le jardin, où mon père fume sa pipe en prenant son vermouth. Une minute après, j'entends la voix paternelle. Je manque de m'étrangler avec un grain très gros que je viens d'avaler.
« Jean, arrive ici tout de suite !»
Je m'avance à pas lents vers le berceau, baissant le nez, la grappe derrière mon dos.
« Tu as accepté un raisin de Madame Pion ?»
Je lève la tête. « Horreur, mon père n'est pas seul !» Il y a là monsieur et madame Legros, monsieur Baudrin et madame Arnal. Veux-tu me répondre, oui ou non ? Est-ce madame Pion qui t'a donné ce raisin ?
Oui, papa.
Alors tu acceptes quelque chose d'un bonapartiste ? Tu manges des raisins badinguesards ? Tu n'as pas honte ?
J'essaie de sauver mon raisin.
Si, papa, j'ai honte. Alors jette ta grappe.
J'hésite, quel dommage de si bons raisins.
Jette ta grappe. Je la jette et je m'en vais furieux. Furieux et honteux. J'ai vu, avant de partir, de quelle façon Monsieur Legros me regardait. J'ai aperçu le sourcil froncé de Monsieur Baudrin et les lèvres pincées de Madame Arnal. Je comprends toute l'étendue de ma faute. Je comprends que tout le monde sait déjà que je suis un corrompu, un vendu, un traître. Quelle honte ! Il ne me reste plus qu'à aller me cacher dans ma chambre.
Mais Catherine m'arrête au passage sur la première marche de l'escalier. Elle a une lettre à la main.
« Monsieur Jean, voulez-vous me lire cette lettre ? »
Catherine ne sait pas lire. C'est moi qui suis chargée de dépouiller sa correspondance. Ce n'est pas encore de mon frère, c'est de mes parents. Je reconnais l'écriture du maître d'école. Il y a bien le timbre de Châtellebault, Haute-Vienne, n'est-ce pas ?
Oui.
J'espérais que ce serait de mon frère. Il y a si longtemps que je n'ai pas reçu de ses nouvelles. Enfin, voyons. Je lis. Ma chère fille, nous avons une nouvelle à t'apprendre avec beaucoup de ménagement, car elle est bien triste et nous ne voudrions point te donner un coup comme ta mère en a reçu en l'apprenant sans ménagement. C'est donc un grand malheur que nous ne nous y attendions pas quand nous avons reçu un procès-verbal militaire apprenant le décès de ton pauvre frère Grégoire, ma chère fille. Ta mère est dans les larmes sans décesser la nuit et le jour, car tu comprends qu'il n'y a plus d'espoir et que nous nous désolons tant que l'on ne peut guère la consoler non plus. Il y a 3 garçons de la commune qui ont été tués aussi, et pas un seul à Saint-Dragonde, qui est bien 4 fois plus grand que Châtellebault, et c'est un grand malheur, car les récoltes sont belles ici, et nous n'avons point à nous plaindre pour quant à nous. Nous avons 2 cochons gras à vendre. Monsieur le curé te fait dire de prier pour l'âme de ton pauvre frère, et je ne connais pas d'autres nouvelles. Ton père pour la vie qui t'embrasse. Je lis tout d'une haleine pendant que Catherine, qui s'est laissée tomber sur une chaise, sanglote dans ses 2 mains. Tout d'un coup, elle se lève et s'essuie les yeux. « Monsieur Jean, voulez-vous me donner la lettre ? Montrez-moi où il y a écrit les 2 cochons gras à vendre. »« Là, Catherine. » La bonne prend la plume qui lui sert à marquer, en signe bizarre, ses comptes avec les fournisseurs. Elle biffe et rebiffe la phrase dont je lui ai indiqué la place, prend la lettre et se dirige vers le jardin. Je la suis. « Pardon de vous déranger, monsieur, dit-elle à mon père, mais j'ai reçu une lettre. Monsieur Jean me l'a lue, mais je serais bien contente si, monsieur, je ne puis pas croire que c'est vrai, voyez-vous. » Mon père recommence la lecture que je viens de faire. « Il n'y a pas à en douter, ma pauvre fille, dit-il quand il a fini. Votre frère est mort en défendant la patrie. Mort comme un héros, dit monsieur Baudrin. Comme un de ces héros obscurs qui, mort comme nous mourrons tous, dit monsieur Legros, que sa femme à ces mots saisit par le bras. Oui, Amélie, comme nous mourrons tous, plutôt que de laisser les vandales souiller plus longtemps le sol sacré de la France. Oui, tous, approuve mon père d'une voix sombre. Consolez-vous, Catherine, songez, ah, monsieur, c'est plus fort que moi. Je ne puis arriver à me figurer que c'est arrivé un garçon si fort, si beau. 24 ans, monsieur, 24 ans. Elle fond en larmes. Pauvre fille, soupire madame Arnal en s'essuyant les yeux. Et ses pauvres parents, gémit madame Legros. Cette pauvre vieille mère. Ah, c'est affreux. Ce Bismarck, ah, si je le tenais. Avez-vous remarqué le style de la lettre ? Demande tout bas monsieur Baudrin à mon père. Comme c'est simple, mais comme c'est empoignant. Rien, absolument rien au point de vue de la syntaxe naturellement, mais une émotion qui déborde. Et ce passage sur les récoltes, cette antithèse entre les ruines que fait la guerre et les dons généreux de Cérès, c'est d'une simplicité rustique. Pas une expression triviale d'ailleurs, pas une expression basse, les récoltes. « Ah, le terme est choisi de main de maître !» fait le professeur en secouant la tête. Heureusement qu'il n'a pas vu les cochons gras. Catherine pleure toujours. Madame Arnal s'est assise près d'elle et la console. Madame Legros continue à déblatérer contre Bismarck, Guillaume et Badinguet. « Ah, les 3 monstres ! On devrait leur infliger des supplices affreux. Ah, pas les tuer tout d'un coup, par exemple, mais tenez ! Les attacher à un poteau et les faire mourir à coups d'épingle. Les faire souffrir des journées entières, quoi. Le mieux, dit monsieur Legros,
Ce serait encore de les faire griller comme Saint-Laurent. Le feu, il n'y a que ça. Je me suis brûlée il y a 15 jours, moi, en torréfiant du café. Eh bien, j'ai encore la marque de la brûlure. C'est d'un douloureux.
Et le pâle ? Demanda Monsieur Boudrin. Croyez-vous que ce ne soit rien ? C'est épouvantable, tout simplement. On pourrait encore user de l'écartèlement ou de l'écorchement ou du crucifiement. Mais ce sont des moyens bien rapides. Non, en vérité, je crois que le pâle, ce qu'il faudrait, fait mon père, je vais vous le dire. Il faudrait attacher les trois bourreaux au milieu des cadavres de leurs victimes et les laisser mourir là.
Bravo ! Crie Monsieur Le Gros.
Catherine lève la tête étonnée et de ses yeux rougis tout grands ouverts semble interroger l'épicier.
« Oui, continue Monsieur Le Gros, oui, nous vengerons nos morts, nous vengerons votre frère, Catherine. Les barbares nous rendront compte du sang qu'ils ont versé. La vengeance !»
Catherine s'est levée et semble boire les paroles du marchand de tabac.
« Eh bien, s'écrie-t-elle tout à coup, et comme hors d'elle-même, eh bien oui, je me vengerai. Je leur ferai payer la mort de mon frère. Le premier Prussien qui va me tomber sous la main, je le tue comme un chien. Aussi vrai que j'ai 5 doigts dans la main. Oui, je le tuerai, je le tuerai. »
Elle part, brandissant sa lettre, faisant des gestes extravagants.
« Vraiment, ça fend le cœur, dit Madame Arnal, cette pauvre fille. »
« Ne la plaignez pas, fait Madame Le Gros en étendant le bras, c'est une héroïne. Il faut l'admirer, non la plaindre. C'est beau ce qu'elle vient de dire. Ah, c'est beau !»«
C'est du Corneille, dit Monsieur Baudrin en se léchant les lèvres.
« Savez-vous qu'elle est capable de le faire comme elle dit ?» demande mon père. « Je n'en doute nullement, répond le professeur.
« Hé hé, ce ne serait point la première fois qu'une femme se serait conduite d'une façon virile. »
L'histoire nous apprend Judith et Holoferne, s'écrie Madame Le Gros.
Je voulais parler, dit Monsieur Boudrin, mécontent de voir sa phrase interrompue, de Jaël, femme d'Aber, qui planta le clou de sa tante dans la tête de Sisara.
Ah, fait philosophiquement l'épicière, c'est que c'est moins connu, voyez-vous.
Eh bien, Catherine sera une Judith.
Hé hé, fait Monsieur Boudrin.
« Savez-vous, madame, que... comment dirais-je ? Dites ce que vous voudrez, ce sera une Judith. »
Monsieur Le Gros essaie de calmer sa femme.
« Tu te montes, ma chère amie, tu avances là des choses, vraiment. Tu sais pourtant bien qu'avant de tuer Holoferne, Judith, c'est enfin... »
« Et puis après, demande l'épicière agacée, quand il s'agit de sauver la patrie, lorsqu'il est question de venger un parent, un frère,
« Ah, Le Gros, manqueriez-vous de cœur, par hasard ? Vous aurais-je mal jugé jusqu'ici ? Mettre en balance les intérêts supérieurs et un léger sacrifice ?»«
Oh, vraiment, madame, fait Madame Arnal, toute rouge, vous exagérez un peu. »«
Pas le moins du monde, Judith a bien fait, et je ferai comme elle, moi. »«
C'est brave, je l'avoue, déclare Monsieur Baudrin, mais c'est peut-être aller un peu trop loin. »«
Je vous demande un peu pourquoi. »
Moi, je trouve ça tout naturel. Judith s'en va dans la tente d'Holoferne et lorsqu'il est endormi, lui coupe la tête. Voilà, c'est très simple. Et je ne comprends pas pour quelle raison ma sœur, qui vient d'entrer dans le berceau, est devenue rouge comme une pivoine.
Quand les circonstances l'exigent, je comprends tout, s'écrie l'épicière en regardant Madame Arnal, pendant que son époux lui frappe sur l'épaule et que mon père sourit. Ainsi que Monsieur Baudrin.
Le fait est, dit le professeur, qu'il n'y a guère de pièces sans prologue, et que lorsqu'on tient à arriver à l'épilogue.
Ah, c'est ça, dit Madame Arnal, l'épilogue, à la bonne heure, j'en suis.
Mais le prologue.
Quel prologue ?
Quel épilogue ?
Madame Arnal minaude.
Le prologue, ce Monsieur Baudrin a des mots charmants.
« Le prologue, non, décidément, je ne me sentirai pas le courage. Il me semble que si un étranger, un ennemi, je ne sais pas, mais rien que cette idée-là, je ne comprends pas. »«
Eh bien, moi, je comprends tout, rugit Madame Le Gros, malgré les supplications de son mari. »«
Ah oui, tout !»
Madame Le Gros est une vraie patriote. Elle comprend tout.
ça ne fait pas un pli.